la Mauritanie, on m'appelle Turquia Dada. N'importe qui à Nouakchott et ailleurs connaît Turquia Dada. Donc je suis algérienne et je suis en Mauritanie parce que j'ai épousé un Mauritanien que j'ai aimé follement et réciproquement.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
Bonjour, il va être question d'amour, de liberté et des indépendances aujourd'hui. Au son de la voix de Turquia Dada, mêlant la grande histoire aux anecdotes savoureuses, Turquia Dada a reçu Carrefour du Maghreb chez elle à Nouakchott, dans sa maison comme un musée, rempli des souvenirs d'une vie passée entre l'Algérie, la Mauritanie, mais aussi Paris, Washington ou Bruxelles. Nationaliste algérienne, femme d'ambassadeur, haut fonctionnaire reconnu par ses pairs, tout commence par une immense douleur, la mort de son père, tué par les Français lorsqu'elle était enfant.
Je suis ce qu'on appelle fille de shahid, c'est-à-dire fille de martyr. Mon père a été fusillé à l'occasion des événements de mai 45.
De ces
kifs. Donc très jeune, c'était très difficile. J'ai vécu une grande épreuve. Et puisque je vous parle de mon père, la plus grande souffrance que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir aller sur la tombe de mon père. Quand on les fusille, il a été fusillé, on les jette n'importe où. Son nom figure sur un monument aux morts, mais ce n'est pas comme aller s'asseoir sur une tombe. Voilà, je suis devenue étudiante parce que j'étais à l'école normale d'institutrice de Constantine. Et étant bonne élève, la directrice de l'époque, très romantique, qui voulait que les Algériennes musulmanes évoluent et contribuent à faire évoluer les Algériennes, au lieu de me donner un poste d'institutrice à la fin de mes 4 années d'école normale, m'a envoyée étudier à Alger.
C'était quelle année ?
En 1956. J'ai étudié une année, puis ensuite les étudiants algériens ont dû faire la grève sur les ordres du Front de Libération Nationale. Et donc beaucoup d'étudiants à l'époque sont partis au maquis. Mais moi j'avais quand même charge de famille, ma mère et puis 3 jeunes frères, donc c'était impossible. Bon, j'ai fait des petites choses, j'ai enseigné aux enfants de la Casbah. Enfin j'étais militante à ma manière, mais un militantisme doux. Et je vais vous dire comment j'ai rencontré Germaine Tillion, parce que c'est intéressant. Germaine Tillion est venue en Algérie avec une commission internationale pour visiter les prisons et les camps où on emprisonnait les gens à l'époque, parce qu'on commençait à parler en France de la torture. Et elle avait demandé à parler aux étudiants. Le président de notre association nous l'a présenté, mais de manière très, très avantageuse pour elle, une grande dame. Elle avait travaillé dans les ORES plusieurs années. Elle avait vécu 4 ans à Ravensbrück, donc résistante. Sa mère gazée en camp de concentration au moment où elle était elle-même à Ravensbrück. Bon, et nous a dit, vous l'écoutez avec respect, mais pas de dialogue, vous ne parlez pas. Elle avait en tête une stratégie. Elle souhaitait à l'époque que les Algériens ne pose plus de bombes qui tuent des civils innocents. Et elle espérait ou elle s'engageait à obtenir du gouvernement français qu'il n'exécute plus les condamnés à mort. Voilà. Alors elle a parlé et après nous a demandé si on avait des questions. Moi, je n'ai pas pu m'empêcher de lever ma main. Tout le monde m'a regardé, mais enfin, c'était trop tard. J'avais levé la main, il fallait que je parle. Je lui ai dit, madame, vous, quand votre pays a été envahi par les Allemands, vous avez résisté, vous avez passé 4 ans dans un camp de concentration, etc. Je suis un peu étonnée de ce que vous nous dites. Elle ne m'a pas répondu, elle a compris qu'on ne devait pas parler, mais en nous quittant, quelques minutes après, elle est passée vers moi et elle m'a demandé d'aller la voir dans son hôtel. Et je suis allée. J'étais impressionnée par cette femme, elle a un grand front à la Beethoven. La bonté, elle rayonne, la bonté, la douceur. Je me suis confessée à elle. Elle m'a écoutée et quand j'ai terminé, elle m'a embrassée et elle a pris un papier, elle a écrit, elle me l'a donné. Et ce papier disait, Émilie, c'est le nom de sa mère, gravement malade. Bon, elle a compris que je pouvais être arrêtée un jour ou l'autre, comme tous les Algériens à l'époque. Et elle m'a dit, si vous arrive quelque chose, envoyez-moi ce télégramme. Et quand les parachutistes sont venus m'arrêter, dans les escaliers, ils faisaient tellement de bruit, j'ai compris que c'était pour moi. Tout de suite, j'ai pris le papier, je l'ai donné à ma mère. Je lui ai dit, ils vont taper la porte, ils vont m'emmener, mais ne te fais pas de soucis. Je vais revenir tout de suite. Mais demain, tu vas à la grande poste et tu envoies ce télégramme.
Pourquoi est-ce que vous avez été arrêtée? Qu'est-ce que vous aviez fait à ce moment-là?
Parce qu'à l'époque, ils avaient arrêté Yacef Saadi, un chef de... Et ils ont trouvé énormément de noms. J'étais sur une liste, comme je rendais des services, je transportais du courrier, des trucs comme ça. Et donc, voilà, ils ont arrêté tout le monde. Et ma mère a envoyé le télégramme. Bon, j'ai été arrêtée, je ne suis pas restée longtemps, parce qu'elle est tout de suite intervenue pour me faire sortir des griffes, comme elle disait, les parachutistes béret rouge. Mais malgré ma jeunesse à l'époque, et puis j'avais l'air vraiment quelconque, ils ont cru que je savais des choses. Et donc, ils m'ont torturée atrocement, 2 jours seulement. Comme je n'avais rien à leur dire, je n'aurais pas dit, je crois, enfin, j'espère, mais de toute façon, je n'avais pas. Et je ne suis pas restée longtemps, je suis restée 3 mois. Mais quand je suis sortie, le capitaine de la Bourdonnais, un aristocrate français, bel homme d'ailleurs, belle allure, il n'a pas utilisé la GIGN, mais c'était lui le maître de toutes les opérations. Il a voulu me compromettre pour que je sois obligée d'aller de leur côté. J'étais étudiante, mais pour gagner ma vie, j'étais maîtresse d'internat dans un lycée. Donc j'étais là la nuit, mais la journée, j'étais libre. Ils savaient à quelle heure je quittais le lycée. Et très souvent, je sors, qu'est-ce que je vois ? Sa voiture devant la porte du lycée, lui assis derrière avec toutes ses décorations, son béret rouge. Et j'étais happée dans la voiture pour que tout le monde me voie. Et ils m'emmenaient dans des restaurants où j'avais jamais mis les pieds. Et j'ai eu très peur. Les Algériens vont penser que j'ai trahi. Et un jour, je vais recevoir une balle dans le dos. Et ma chance, c'est que la directrice à l'école normale d'institutrice, qui croyait que j'avais un grand destin, qu'il fallait que j'aille à l'université, avait été nommée à Alger. Alors je n'ai eu qu'elle. Et je suis allée la voir. Et elle m'a dit, vous allez quitter l'Algérie. Et je suis restée chez elle, je n'ai plus revu ma mère, je suis restée chez elle, je ne sais pas, une semaine environ. Et j'ai quitté l'Algérie, sans papier, sans rien, avec une délégation française de l'éducation nationale qui était venue au rectorat. Et je suis arrivée à Orly, et Germain Tillion m'attendait. Vous savez, on s'est fait la guerre, Algérien et Français, mais on a une histoire commune. Et moi, j'avais des amis, j'ai beaucoup d'amis encore. Ma meilleure amie est française. Il y avait une assistante sociale qui m'avait connue à Alger, qui m'avait aidée, ils m'ont donné de l'argent, ils m'ont acheté des vêtements. Enfin, j'ai été prise en main et surtout, l'affection. Parce que moi, ce qui m'a vraiment fait beaucoup de mal, moi j'ai appris comme vous, nos ancêtres les Gaulois, j'ai eu une bonne formation, merci la France, à l'école primaire et après. Et donc la civilisation que la France représentait, mise à bas par la torture et le comportement. Ça, c'était une grande souffrance, vraiment. Mais c'était compensé, c'est le revers de la médaille, pour toutes ces personnes qui étaient des Françaises, mais qui sont devenues ma famille en France. Bon, j'étais chez Germain Tillion, j'avais une jolie chambre, elle s'est débrouillée pour que je sois inscrite à l'université, que j'ai des papiers. À l'époque, on était tous Français, donc c'était difficile de me refaire une carte d'identité. Donc c'était formidable. Mon amie, l'assistante sociale, qui était issue d'une famille riche du Maine-et-Loire, je partais en vacances dans sa famille, traitée comme une fille, mangeais bien, découvrir la France, etc. J'ai eu de la chance. Germaine Tillion était une femme exceptionnelle, d'intelligence et de valeur morale. Et pour elle, ce qui est essentiel sur cette terre, c'est la justice. Elle recevait beaucoup, les résistants, Geneviève de Gaulle. Les résistants, c'est un réseau soudé et ce sont des gens de grande qualité. Je vais vous dire, j'ai rencontré ce qu'on appelle l'humanité deux fois dans ma vie, le réseau des résistants français chez Germain Tillion et le monde à la Mecque, parce que je suis allée à la Mecque. La première prière que j'ai faite dans la mosquée du prophète à la Mecque, où ces femmes du monde entier, on ne parle pas les mêmes langues, mais on parle quand même avec les yeux, les mains, c'est incroyable. C'était l'humanité. Et en ce moment où il y a l'inhumanité, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Bon, et puis j'ai rencontré mon mari, et voilà, maintenant on passe à la Mauritanie.
Carrefour du Maghreb, Juliette Rangeval.
La Mauritanie prenait position le 27 novembre dans le cadre de la communauté. En plein désert, sa nouvelle capitale, Nouakchott, naissait en même temps que l'État mauritanien.
Je suis arrivée en Mauritanie d'abord pour les fêtes de l'indépendance. Il y a une délégation d'étudiants qui a été invitée. Mon mari était secrétaire général de l'association des étudiants en France. Et donc, il a été choisi. Et comme l'Algérie était très bien vue, d'ailleurs, elle est toujours assez bien vue par les Mauritaniens. Ils m'ont mis dans la délégation et je suis arrivée. Alors moi qui ai vécu quand même, je suis de Sétif, c'est des hauts plateaux. Mais l'Algérie, c'est, par rapport au désert, c'est un pays vert, c'est un pays où il y a de l'eau, où il y a des légumes, il y a des fruits, il y a des oiseaux. Enfin, je suis arrivée et qu'est-ce que je vois? Je vois rien, pas vraiment de ville. Du sable, des dunes. Il n'y avait pas pour loger les étudiants. Nous étions tous dans une maison en construction et mon mari et moi, on était dans une chambre sur un lit de camp sans électricité, sans porte ni fenêtre. J'ai été furieuse, furieuse. Parce que chez nous, arabes, musulmans, quand même la jeune mariée, elle est bien reçue par les beaux-parents. Moi, soi-disant, j'étais la belle-sœur du président de la République. Et il y a eu un buffet gigantesque venu de Paris, pour vous dire les erreurs de la France avec les Bédouins, des langoustes, du saumon, du foie gras. Moi, j'ai apprécié parce que je connaissais. Mais les Mauritaniens, ça ne leur disait rien, ils attendaient des méchouilles. Je suis d'ailleurs dans un match. Attendez. Voilà. Quand je suis rentrée après les fêtes de l'indépendance, j'habitais à la cité universitaire. Et j'avais une amie d'études qui me dit « Ah, je t'ai vue dans match !» Mais c'était trop tard. Et puis, des années après, je l'ai retrouvée. Le méchoui de l'indépendance. Et effectivement, me voilà. À un moment donné, le Mokhtar, mon beau-frère, a lu le discours de l'indépendance en français.
Aujourd'hui, 28 novembre 1960, en vertu de la clause signée le 19 octobre 1960 entre la République française et la République islamique de Mauritanie, accord qui a été approuvé par les parlements des deux États. Je proclame solennellement l'indépendance de la République islamique de Mauritanie.
Maintenant, on fait les discours en arabe, mais à l'époque, tout était en français. Et alors, moi, j'étais nationaliste algérienne. Et vers la fin, il a eu une phrase pour l'Algérie, disant au moment où nous célébrons notre indépendance, nous pensons à nos frères algériens. Et moi, je me suis mise à applaudir comme une folle. Et derrière moi, il y avait des officiers français de la délégation. Et après, quand Mokhtar a fini de faire son discours, il est allé à un endroit où il a fait donner une conférence de presse. Et nous, on a distribué des tracts, nous les étudiants. Et ça va vous faire rire. Moi, j'étais pressée d'aller donner un tract à l'Aga Khan, le jeune Aga Khan. Je le trouvais beau. Donc vraiment, c'était des pensées plutôt pacifiques. Et j'ai été arrêtée par un officier qui m'a arraché mon paquet de tracts et moi je criais « C'est fini, nous sommes indépendants !» Alors, les étudiants qui me connaissaient sont venus et les nomades, les délégués du désert, ils sont venus avec leur boubou, leur tout le monde autour de cet officier prêt à le lyncher. Et mon mari a été averti, il est venu aussi, en disant à l'officier, vous n'avez même pas l'intelligence de nous donner l'impression que nous sommes vraiment indépendants. Et on a dit à mon beau-frère, qui m'avait à peine vu, que pensez-vous de l'incident, les journalistes déjà informés? Alors il a dû être inquiet et il a demandé à ce qu'on me conduise près de chez lui. Et c'est comme ça que je l'ai vu et que je suis rentrée avec lui dans sa voiture comme une reine. Voilà, donc mon entrée fracassante en Mauritanie. Et on est parti le lendemain ou deux jours après. Donc, j'ai connu la Mauritanie quand on a terminé les études et qu'on est revenu pour vivre. Alors, je suis revenue avec mon mari. Il n'y avait rien. Mais pour moi, c'est une de mes séjours les plus beaux à Nouakchott. J'avais le mépris, ou pas le mépris, mais enfin, un peu l'arrogance des citadins à l'égard des nomades. Et j'ai découvert des gens très raffinés. J'étais éblouie, je ne vous cache pas. Quand j'allais chez mes beaux-parents sous la tente, bon, ma belle famille, c'est ce qu'on appelle les grandes familles ici, c'est l'aristocratie. C'était une société de caste. Elle reste encore un peu aujourd'hui avec cet esprit de caste. Les femmes du campement étaient toutes instruites, mais ce n'était pas seulement la connaissance du Coran. Elles connaissaient la grammaire, la poésie, l'histoire. Elles étaient chacune avec un livre sous la tente. C'était incroyable, ce qui n'existait pas en Algérie. Et l'évolution vers la modernité se faisait surtout dans les villes, comme moi j'étais à Nouakchott, mais elle se faisait tranquillement. Et je crois que si on n'avait pas eu les coups d'État militaires, le pays aurait pu mieux s'en sortir avec les richesses dont il dispose. On était tous morts, arabes, arabo-berbères, noirs, français, assistants techniques, ensemble. Moi, j'ai appris à danser en Mauritanie, parce qu'en Algérie, c'était impensable. Tous, on faisait ce qu'on appelait des surprise parties. Toutes les 15 jours, chez les uns et chez les autres, ce qui n'existe plus. Maintenant, les Français ne connaissent même pas les Mauritaniens. Moi, ils me connaissent parce que je suis connue, mais ils ne les connaissent pas. Et les Mauritaniennes, à part quelques petites exceptions, les Noirs sont d'un côté, les Maures sont de l'autre. Et donc, c'était une vie extraordinaire. Et pendant des années, tout en étant femme d'ambassadeur à Washington, enfin dans les grandes capitales, je venais passer mes vacances à Nouakchott. Ça, les gens ne peuvent pas l'imaginer. Et puis, on avait la chance. Moi, j'étais fonctionnaire. Donc, j'ai d'abord enseigné. Et puis, très vite, j'ai eu des responsabilités administratives. J'étais secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères. J'étais avec diplomate. Après, j'étais à l'ENA. Et on avait un président intègre, grande valeur morale, très bon. Et bien que la vie fut très dure, moi, mon mari a été ministre, moi, j'étais haut fonctionnaire, mais on n'avait pas le droit d'avoir un climatiseur. Impossible. On pouvait avoir un ventilateur, mais donc une vie austère. Il n'y avait pas grand-chose. Moi, à l'époque, j'avais pris beaucoup de cellulite parce que je disais à mon mari, je disais, moi, j'en ai marre de bouffer du riz, du riz, du riz. Mais on acceptait le modèle venait de haut. Et on avait l'impression de participer à quelque chose, de contribuer véritablement à la construction d'un État.
Carrefour du Maghreb à Nouakchott, moyens externes et réalisation. Françoise Grelot, dans un instant, c'est Légendes urbaines sur RFI.